Albert à la technique, Nicolas à l'animation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour déjà une 12e émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant. Après la jeunesse et l'économie, la jeunesse et l'écologie. Afin d'évoquer cette question, j'ai décidé d'inviter pas un, pas deux, pas trois, mais quatre invités non politiques. Maël Hérisson, maraîcher bio en formation et membre d'Alternativa. Bonsoir monsieur Hérisson.
Bonsoir.
Benjamin Arand, réalisateur documentariste, membre de l'association L'Esprit de Barbara. Bonsoir monsieur Arand.
Bonsoir.
Et deux invités qui n'étaient pas prévus sur le plateau, mais que j'accueille avec grand plaisir. On remerciera Benoît Planchenot, Lucie Casals. Bonsoir madame Casals.
Bonsoir.
Et madame Clémentine Janin.
Bonsoir.
Je préciserai que vous êtes membre et militante de Youth for Climate, que vous aurez peut-être l'occasion de nous présenter ce soir. Et ce soir, exceptionnellement, nous serons accompagnés d'une vidéaste et de cinq jeunes, entre guillemets, qui pourront éventuellement, s'ils veulent intervenir dans le débat, prendre le micro pour donner leur avis. Donc vous comprendrez que ce soir, sur le plateau, on va être plus chaud que le climat. Contrairement à ma petite habitude, quand j'ai des politiques où je me permets un petit édito, je ne le ferai pas ce soir. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de politique et nous avons des jeunes, entre guillemets. Premier sujet ce soir que nous allons aborder, toujours comme d'habitude dans l'émission, une phase de constat. Et le premier sujet que j'aimerais évoquer avec vous, mesdames et messieurs, écologie, le choc des générations. Est-ce que les boomers, ça vous pose un problème ? Qui veut répondre, monsieur Hérisson, peut-être, en premier lieu ?
Ça dépend des boomers, en vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une partie des boomers où il y a du travail
Alors,
à faire.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un boomer ?
Un boomer, c'est la génération de 1946 à 60. C'est d'après-guerre. Et donc, c'est les soixantenaires et 70 qu'ils ont maintenant.
D'accord. Et est-ce que vous pensez, autour de la table, hein, pas forcément monsieur Hérisson, est-ce qu'il y a un choc des générations sur la question écologique ? Peut-être monsieur Arand pour répondre ?
Ouais. Alors un choc des générations, je sais pas. J'ai l'impression qu'on essaie aussi de nous enfermer un peu dans cette confrontation entre jeunes, boomers. Moi je pense effectivement comme l'a dit Maël, on va surtout cibler, on va identifier ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous, ceux qui nous empêchent finalement de mener le combat qui semble être le nôtre là autour de la table. Et en fait, et les personnes qui vont être nos alliés. Et c'est dommage, en fait, de résumer une personne à son âge. Il y a des personnes qui sont dans une sobriété depuis 40 ans. Puis il y a des gens qui sont ultra consuméristes à 20 ans. Et donc c'est un petit peu dommage de nous enfermer toujours dans cette confrontation, alors que je pense qu'elle a pas lieu d'être.
Mademoiselle Janin ou mademoiselle Casals.
Moi, je pense que c'est très important que les générations s'entraident. Car je pense que pour mener des grandes actions ou des choses qui nous tiennent à cœur, il est important d'être groupés et ensemble. C'est pourquoi je pense que c'est important de pas rejeter, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit un combat collectif et que l'âge n'est pas forcément un critère de
mobilisation.
Voilà.
Mademoiselle Janin.
Bah oui, pour permettre qu'on travaille ensemble sur des causes communes. Je pense que ça marchera mieux, notamment si on inclut tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent participer et qui souhaitent participer donc à leur hauteur, à leur échelle.
Alors moi j'ai pu assister, notamment vous avez tous fait les marches pour le climat, et tout ce qui s'ensuit. J'ai pu constater quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de boomers comme l'a défini monsieur Hérisson. Est-ce que ça vous interpelle, hein, qu'il n'y ait pas justement dans les mobilisations, parce que vous parlez d'inclusivité, est-ce que vous avez l'impression que cette génération-là, et moi je vais même vous dire, en fait les boomers, c'est mal entendu, on a l'impression que même la génération dont je fais partie, qui a 40 piges, on a l'impression qu'on est un peu des boomers aussi. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Qu'est-ce que vous constatez en termes générationnels, dans les marches, notamment dans les mobilisations ? Mademoiselle Casals.
Oui. Je sais qu'il y a en fait plusieurs marches, par exemple, qui sont organisées, et que je trouve ça un petit peu embêtant, c'est qu'en fait, il y a des marches pour le climat avec des personnes... pas des jeunes en fait. Par exemple, il y en avait une un samedi Je saurais plus dire
la
date.
La dernière
Oui, voilà, la marche Look Up, c'est ça.
Le 2 avril.
Le 2 avril, voilà,
12,
c'est ça.
12 mars, pardon.
Voilà, c'est ça. Eh bien là, justement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment peu de jeunes et qu'il y avait une grande majorité d'adultes et de personnes âgées. Et aussi de personnes avec des petits-enfants, mais pas tant que ça, d'adolescents ou de personnes qu'on qualifierait de jeunes. Dans l'autre sens, il y avait une manifestation, donc il y a pas longtemps de plus, vendredi, il y a une semaine, il y a 15, je saurais plus dire.
Il y a une semaine.
Mais voilà, il y a une semaine où là, en fait, il y avait vraiment que des jeunes, et je trouve que l'intergénérationnel doit être vraiment important et plus prononcé, et je pense que ce serait intéressant de faire vraiment des marches où tout le monde est présent. Notamment, il y en a une le 9 avril, samedi là, qui est prévue. Et donc là justement, si j'ai bien compris ce qu'ont dit les organisateurs, le but c'était de faire une manifestation intergénérationnelle, donc où jeunes et boomers sont réunis dans cette lutte commune.
Monsieur Aran, peut-être, ou Monsieur Hérisson, une intervention, allez-y.
En fait, à mon sens, cette confrontation, elle est née en fait de l'appel à manifester le vendredi de Greta Thunberg, et en fait, on a vu les réactions les plus épidermiques. En fait, c'était justement de la part, on va dire, si on résume, mais vraiment très schématiquement, effectivement, c'est les boomers, c'est des personnes d'un certain âge qui semblent un peu dépassées par tout ce qui se passe, par les nouveaux combats, les combats en tout cas qui mobilisent la jeunesse, et qui ont, moi je trouve qu'ils ont déversé un venin qui était tout simplement indigne sur une gamine qui avait à l'époque 16 ans. Moi je trouvais que ça en disait beaucoup.
Donner des noms, n'hésitez pas, ici on est libre.
Non, je pense que ça sert à rien de les nommer, ça serait de leur faire de la mauvaise pub, ou plutôt de la bonne pub, parce qu'il y a un public. Mais je pense qu'en fait c'est né de ça. Et effectivement, les marches pour le climat, pourquoi le vendredi ça réunissait des jeunes? Parce que
oui, justement, c'est une question que j'avais posée très bien.
C'était difficile en fait pour les personnes qui sont salariées de pouvoir se libérer un vendredi. Donc c'est pour ça que ça. Et moi, je trouve que c'était intéressant de réussir à fédérer des jeunes, qu'ils aient leur rendez-vous, pas forcément toutes les semaines, mais c'était à peu près tous les mois à un moment. Ou en tout cas, c'était quand même assez régulier. Et je trouvais ça intéressant que on ait un petit peu notre moment, notre mai 68. Qu'il y ait des jeunes qui se, alors évidemment, à toute proportion gardée, et puis ce sont pas les mêmes, les mouvements ont évolué, mais je trouvais que c'était intéressant justement que la jeunesse finalement s'empare d'un événement, d'un rendez-vous.
Monsieur Hérisson, une réaction peut-être, ou un rajout complémentaire?
Ouais, je pense que je peux rajouter. Je suis Alternatiba et on m'a toujours appelé le bébé d'Alternatiba parce que j'ai toujours été le plus jeune dans cette assos là. Et c'était beaucoup de personnes qu'on pourrait qualifier de boomers si on veut être dans ce thème-là, même si à mon avis ce ne sont pas des boomers, mais c'est beaucoup de personnes d'un certain âge qui s'en veut, qui veulent nous aider et qui se rendent compte de ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on arrive à se rejoindre sur nos idées.
Alors je tiens, on parlait de boomers, on pourra citer André, qui est un membre d'Alternatiba, qui avait plus 70 piges, et finalement, Alternatiba, il y a aussi des seniors, pour être politiquement correct. Moi, j'ai une petite question quand même à vous poser. J'ai lu beaucoup pour préparer l'émission, hein, je travaille, hein, même si je suis bénévole, et est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être une minorité dans la jeunesse, à faire des actions comme ça? Est-ce que vous vous sentez minoritaire par rapport à vos collègues? Enfin, vous êtes tous établis, soit vous êtes encore à l'école ou dans votre milieu professionnel en formation. Bon, pour Monsieur Aran, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Peut-être Monsieur Aran.
J'ai une idée parce qu'en fait, du coup, je travaille dans un collège et j'ai l'impression qu'effectivement, alors on va parler d'une génération après moi quand même. J'ai l'impression qu'effectivement,
parce que vous avez 47 ans aujourd'hui,
exactement, exactement 38. Non, j'ai 23 ans et effectivement, je me trouve malheureusement un peu minoritaire. Je me trouve en fait pas minoritaire dans le constat, mais minoritaire dans l'action. Alors que justement, la génération d'après me semble beaucoup plus mobilisée. Elle sait davantage où se situer dans le rapport de force. Nous, j'ai l'impression, et j'ai trouvé ça très juste la semaine dernière, ce que t'as dit. En fait, à propos de la génération un peu burn-out avant d'avoir commencé à travailler, moi, je me situe exactement là-dedans. J'ai l'impression qu'effectivement, on est très concernés, mais en même temps, on ne sait pas comment faire.
Monsieur Hérisson, est-ce que vous avez l'impression d'être minoritaire? Vous qui êtes en plus en formation, en tant que maraîcher bio, vous êtes plutôt actif sur ça.
Je suis au lycée agricole de Rouillon.
D'accord, à la Germinière.
À la Germinière. Et effectivement, dans ce milieu-là, je suis l'un des seuls. On est quand même à militer écolo. Il y a des profs aussi qui sont à militer écolo, mais c'est assez étonnant que dans le monde agricole on soit en minorité dans dans ce domaine-là. Après, j'ai fait ma seconde générale à Bellevue, donc j'ai aussi des amis qui viennent du lycée général. Et là, je te rejoins là-dessus. C'est beaucoup de constats, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont aller jusque dans l'action.
Mademoiselle ?
Je pense que pour aller dans l'action, enfin, à partir du moment où on est lancé sur les manifestations et tout ça, comme on se rend compte que c'est un espace d'échange très constructif, en fait, on peut échanger des informations et il y a des petits projets entre nous qui se rejoignent. Mais je pense que l'enjeu, c'est de parvenir à faire venir les gens aux manifestations. Et ça, il y a des problèmes de communication, il y a aussi des problèmes de motivation et... Par exemple, dans notre établissement, il faut louper les... Enfin,
vous pouvez préciser dernière... lequel, si ça vous dérange, non, ou pas ? Ça vous dérange ? Non, mais vous n'êtes pas obligé. Hein.
D'accord. Par exemple, la dernière manifestation, vendredi, il fallait louper les cours, donc ça, ça a démotivé un certain nombre de personnes. Mais je pense que l'enjeu, c'est de créer une manifestation qui soit assez attractive et qui puisse faire venir du monde, qui puisse se retrouver justement dans cet espace de... assez collaboratif.
Mademoiselle Casals.
Pour la question... de si les jeunes autour de moi étaient plutôt mobilisés, j'ai l'impression que dans les gens que je côtoie, il y en a beaucoup qui, pour qui la question écologique est une question importante. Après, je trouve que beaucoup de jeunes justement incitent leurs parents, qu'en fait ça vient des jeunes et qu'après, grâce aux jeunes, et ben les parents ils n'ont pas d'argument pour dire contre que c'est mal et donc en fait ils suivent. Et je trouve ça bien parce que comme ça les jeunes se disent leurs informations, qu'est-ce qu'ils font entre eux et comme ça ça permet qu'il y ait plus de monde qui moi je trouve que les jeunes autour de moi sont plutôt mobilisés et s'intéressent à l'écologie.
Alors je vais faire mon boomer encore une fois, ce que vous avez évoqué, les jeunes entre guillemets sont vecteurs de communication ou de conscience. C'est comme dans la pub. On cible des jeunes enfants ou des ados ou des jeunes adultes pour leur faire passer des idées. Donc vous pensez vraiment que vous avez une influence sur vos parents ? On a 3 minutes, très court. Monsieur Hérisson.
Ah oui, je pense que oui. J'ai posé la question sur Instagram.
Ou inversement, est-ce que c'est pas vos parents qui vous ont sensibilisé ?
J'ai posé la question sur Instagram hier et à mes potes. Et j'ai eu beaucoup de réponses en disant pour être acteur du changement climatique, il faut c'est les enfants qui éduquent les parents. C'est vraiment ce qui m'est revenu, c'est les enfants qui vont éduquer sur les idées écologiques leurs parents, sur le mode de consommation, de la surconsommation, sur les faits qui sont là présents actuels.
Monsieur Aran.
Ouais. Et ben justement ce que tu dis c'est juste parce que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup du dernier album d'Orelsan, c'est il faut désapprendre en fait tout ce qu'on a appris. Mm-hmm. Et du coup, à ce jeu-là, qui de mieux que des esprits neufs pour justement aider les esprits un peu plus mûrs à désapprendre ce qu'ils ont toujours appris. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça suscite autant de résistance du côté des personnes d'un certain âge, c'est qu'effectivement, une habitude, plus on l'a exercée, l'habitude, plus il est difficile de s'en défaire. Ça vaut pour quasiment toutes les addictions, ça vaut pour toutes les habitudes. C'est très difficile de se priver d'une habitude qu'on a fait pendant 30, 40 ans, quoi. Et donc, c'est là qu'intervient justement les jeunes, parce qu'on permet justement ce changement. Moi, je sais que mes parents, typiquement, je les ai beaucoup, je les ai travaillés au corps, quoi. Il y a des trucs, il y a une sensibilité de base, et puis voilà, c'est un échange, on se nourrit l'un et l'autre, je pense.
Alors c'est très bien que vous fassiez occasion à Orelsan, on passera un morceau en fin d'émission que tout le monde connaît, l'odeur de l'essence. Et par contre, j'aimerais intervenir, vous dites désapprendre. Alors désapprendre, c'est déconstruire, et les déconstructivistes, c'est pas votre génération qui l'avait inventé, ça s'appelle Derrida, ça s'appelle Deleuze et ça s'appelle Debré.
La French Theory.
Exactement, merci monsieur Aran. On va passer au sujet suivant. Second sujet, de quelle manière la jeunesse peut agir pour l'écologie ? Alors, on a un petit peu abordé le sujet, mais moi, j'aimerais que vous présentiez en fait ce que vous faites concrètement, parce que vous êtes des jeunes qui agissent dans l'écologie. Donc, à tour de rôle, j'aimerais que vous me présentiez soit votre mouvement, soit ce que vous faites. Mademoiselle Casals.
Vous voulez que je présente Youth for Climate ?
C'est un peu le but de l'émission.
C'est parti. c'est un groupement citoyen qui a été fondé en 2019 à la suite de Friday for Future de Greta Thunberg. Oh oui. C'est un mouvement national, donc
Excuse-moi, c'est un mouvement vraiment franco-français ou c'est international?
Je crois que c'est international. Je suis pas sûre, mais après,
vu le nom en anglais, ça me paraît international quand même.
Oui. Et donc, il y en a dans plusieurs villes internationales, donc mais notamment en France. Et je sais qu'au Mans, il a été recréé, enfin il a été parce qu'il y a eu une pause pendant le Covid, et il a été remis en marche récemment, notamment avec la manifestation de vendredi. Que dire d'autre? Sinon, il y a beaucoup de... Moi, je suis arrivée récemment dans Youth for Climate, mais il y a beaucoup de gens qui sont là depuis un certain temps et qui réfléchissent donc à comment faire des actions au Mans qui peuvent être intéressantes.
Et concrètement, vous avez fait quoi comme action?
Concrètement, pour l'instant, comme je viens de le dire, ça vient juste de reprendre. Mmh. Donc là, la première grosse action, donc c'est la manifestation.
Le 9 avril, du coup.
Non. La manifestation du vendredi
dernier,
enfin ou d'avant. Donc ça, c'était la grosse action de reprise en fait. Et ensuite, on a une réunion en présentiel est prévue dans pas longtemps pour justement pour mettre au point, pour réfléchir à des actions qu'on pourrait faire au Mans et dans nos lycées. Donc c'est prévu bientôt.
Merci pour ces précisions, Madame Janin. Peut-être une petite précision sur les propos de votre collègue, parce que vous êtes aussi membre de Youth for Climate.
Globalement, sur les actions proposées par le collectif, la revendication principale, c'est que le gouvernement prenne en compte ces demandes-là. En fait, c'est impératif, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, que le gouvernement le prenne en compte, parce que il y a tout ce qui est action individuelle et action collective qui est très important. Donc, dans tous les collectifs, Alternatiba, tout ça. Action individuelle, bon, on va pas citer des exemples. Mais pour coordonner tout ça, et pas pour... uniquement pour le coordonner, mais aussi pour que ça devienne quelque chose de législatif. Il faut qu'il y ait une action politique. Et donc, c'est aussi une des grandes revendications du collectif.
Merci, mesdemoiselles. Monsieur Hérisson, on l'a évoqué tout à l'heure, vous étiez membre d'Alternatiba. Qu'est-ce qu'a fait, ou vous pouvez nous expliquer ce qu'est Alternatiba?
Alors, Alternatiba, c'est un collectif aussi qui se passe au Mans. Ils ont organisé pas mal de manifestations, beaucoup d'aides de projets. C'est-à-dire que si on a envie de faire un projet en thème avec l'écologie, faut pas hésiter à venir à Alternatiba pour pouvoir travailler avec eux. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré à Alternatiba. Je suis rentré à Alternatiba il y a 4 ans déjà, avec un projet et qui était de faire un village alternatif à Coulaines.
À Coulaines. Alors, on peut préciser, toi, t'étais peut-être pas de cette génération-là. Moi, j'y étais pour le coup, donc je suis un vieux boomer d'Alternatiba. Et faut préciser quand même qu'Alternatiba, ça vient de Alternative Bayonne. En fait, c'était un mouvement qui s'est monté à Bayonne, qui a monté un village alternatif. Ce qui a été fait, en tout cas au Mans, il y a quelques années. Alors, faudra pas m'en vouloir. Et je tiens d'ailleurs à saluer Amélie Polakowska,
Claire Philippe, aussi.
Claire Philippe et toute l'équipe autour, Benoît Plancheneau, Aurélie. Amélie Hénaud, enfin voilà, on leur passe un big up ce soir. Et donc, vous expliquez que c'était une aide à projet. Concrètement, qu'est-ce qu'a fait Alternatiba pour des projets? Est-ce que vous avez des exemples notamment?
Eh ben non, j'ai pas d'exemple parce que le projet au final ne s'est pas fait avec le Covid. Je suis désolé.
Oh bah non, t'excuses pas.
Mais je participais aux plénières, donc c'est une fois par mois, le troisième mercredi du mois, et on a réécrit un texte de loi. C'est vrai que ça, c'est le projet qu'on a fait avec Alternatiba. Et après, moi, c'était plus du perso dans les actions que j'ai pu faire.
D'accord. Voilà. Monsieur Aron.
Oui. Alors, c'est vrai que mieux vaut être en fait totalement transparent.
Vous êtes dans ces mouvements-là? Enfin, vous gravitez autour?
Je gravite autour. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut difficilement... Alors évidemment, il y a des circonstances atténuantes, mais moi, je fais vraiment un constat d'échec sur ces deux dernières années. Je trouve qu'on a perdu 2 ans sur tous les fronts. C'est-à-dire que nous, militants aussi, il faut aussi savoir... Moi, je pense que ce que peut apporter la jeunesse, justement, c'est un renouvellement des modes d'action. Si on est aussi prévisible et que finalement, les militants écolos ne font que des manifestations et partagent des posts sur Instagram, je peux vous dire qu'on est tous... C'est terminé. On est tous déjà morts.
Monsieur Hérisson, une intervention?
Après, si je peux me permettre, je suis désolé, mais moi, au contraire, je trouve que ces 2 ans Eh ben, ça m'a permis de me concentrer plus sur mes projets personnels que sur les manifs, parce que j'étais beaucoup en manif du coup et beaucoup à Alternatiba. Et ces 2 ans de pause m'ont permis de pouvoir travailler sur un travail personnel, sur j'ai un jardin potager, donc j'ai pu travailler dans ce jardin-là plus souvent, pouvoir développer plusieurs choses, plusieurs projets que je pense pas avoir le temps de faire si j'aurais continué ce rythme-là de manif, de préparation de manif, parce qu'il faut savoir que quand on fait une manif et qu'on veut s'investir dedans, et ben ça demande beaucoup de temps. Et il y avait aussi les blocus au lycée Bellevue qui demandaient beaucoup de temps. Donc ces 2 ans de pause m'ont permis, et je pense ont permis à d'autres personnes de pouvoir personnellement s'inscrire dans l'écologie.
Merci pour votre retour. Mais alors, j'ai une question un peu provoque, vous allez me dire. Mais pourquoi ? Enfin, je sais pas, j'en sais rien, c'est une question que je vous pose. Vous êtes militant associatif, bénévole, et est-ce que vous essayez de renouveler, vous parliez, monsieur Aran, de renouveler les pratiques militantes ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que les marches, les pétitions, enfin, moi, dans ma génération, on en a signé des kilos et des kilos, ça n'a rien fait. Donc, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place dans termes de militantisme alternatif, pour le coup, mademoiselle ? Est-ce que vous avez des idées, de propositions ? Qu'est-ce que vous allez éventuellement essayer de monter qui va être différent de, des anciens, entre guillemets ?
Je pense pas que ça n'ait rien fait, d'une part, parce que ça a imposé le sujet dans le collectif. Enfin,
dans le débat public.
Dans le débat public. Ça a imposé le sujet. Et oui, en termes d'action, effectivement, se diversifier... c'est assez important. C'est pour ça aussi que au niveau des réunions intergénérationnelles, ça peut être intéressant aussi, notamment pour ça, dans l'idée de se réunir avec des personnes qui vont pas forcément être de la même génération, avoir les mêmes idées.
Allez-y, madame.
Et donc sans avoir les mêmes idées, ça permet de renouveler un peu tout le débat.
Mademoiselle Casals.
Moi, je trouve que ça a aussi permis, donc comme tu as dit, de sensibiliser. Et je trouve que c'est un point très important, c'est de que ça entre dans le débat public et que cette question soit vraiment prise au sérieux et que ce soit pas juste des gens qui se mettent du maquillage vert dans des manifestations et qui marchent ensemble. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de se donner des idées. Ça, je trouve, c'est vraiment important aussi. Et les idées, après, comment on les fait? Ça, je pense que c'est pour inciter les gens qui ont du pouvoir donc à nous écouter. Et donc, je pense que voilà.
Moi, je vais poser une question à Monsieur Hérisson et à Monsieur Aran, peut-être qu'ils seront peut-être plus au fait parce que vous avez l'air d'avoir démarré votre militantisme écologique il y a pas très longtemps. Oui. Extinction Rebellion, ça. Est-ce que c'est de l'action et est-ce que ça vous paraît, enfin, finalement, et c'est un débat qu'on avait beaucoup avec Amélie Alternatiba, la question de la radicalité des actions. Est-ce qu'il faut se radicaliser en fait aujourd'hui quand on est jeune pour faire tenir l'écologie au-delà du débat public?
Je pense que si on prend mon exemple. Il y en a qui vont considérer que je suis un peu trop extrême dans mes idées. Moi, je considère que je suis pas encore trop dans l'extrême, mais il faut pas aller dans la frustration, mais montrer exemple. C'est-à-dire que voilà, moi, par exemple, je suis végétarien, je suis au lycée agricole, ça pose pas de problème parce que j'ai jamais été dans l'opposition envers eux de je mange pas de viande, vous arrêtez de manger de la viande. J'ai jamais été dans cette débat-là.
Ça sera le sujet de notre troisième sujet, Maël. Monsieur Aran.
Ce que je voulais rajouter, alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'importance de se rassembler pour pouvoir échanger. Ça, c'est tellement, tellement important parce que justement, c'est ce dont nous a privé le Covid. C'est la possibilité de se rassembler et ça donne de la force. Clairement, quand on va aux marches et qu'on voit des gens avec qui on peut discuter, ça nous donne de la force. Par contre, c'est important, mais il faut compléter d'autres choses parce que le débat présidentiel, là, le climat, c'est 5%. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout attiré l'attention.
Donc vous considérez que l'écologie, c'est Yannick Jadot en France aujourd'hui ? Petite question impertinente.
Alors là,
parce que vous dites 5%, c'est le score de Jadot aujourd'hui.
Ouais, alors c'est le rapprochement que vous faites. Moi, je suis pas là pour parler de personnalité ou d'incarnation du programme. Au contraire, on a envie de parler de climat et des sujets environnementaux et pas de personnalité politique. Mais par contre, on est obligé de se dire comment c'est possible. Alors que le GIEC nous alerte toujours un peu plus. Mmh. Comment ça se fait que la campagne présidentielle, on ne parle que de sécurité ? Ou plutôt d'insécurité, d'immigration et de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on a bien perdu dans notre manière de médiatiquement peser.
Alors, j'aimerais me faire l'avocat du diable. Selon un sondage Ipsos qui est sorti il y a 2-3 jours, la préoccupation écologique est le troisième sujet après le pouvoir d'achat et effectivement la guerre, entre guillemets. On va se quitter pour une petite pause musicale après ces constats très intéressants. Et merci d'avoir présenté vos actions et votre militantisme. On va se quitter avec un morceau d'Assassin qui date de 1992, qui parle d'écologie. Donc vous voyez que les vieux, des fois, on avait aussi des bonnes consciences.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Raser les forêts entières, en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une rente pour les pays aux ressources vitales économiques? Bon, au plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la ville dans le pays, la disparition d'espèces animales et le plus de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
De retour après cet excellent morceau d'Assassin, Sauvons la planète. On va rentrer sur la phase, donc deuxième partie du débat, comme d'habitude, sur les propositions. Troisième sujet, toujours dans le thème des propositions, un peu provoque. Jeunes gens, faut-il arrêter de bouffer de la viande pour sauver le climat?
Non.
Monsieur Hérisson.
Non.
Pourtant, vous êtes vegan, vous l'avez dit tout à l'heure, ou végé au moins.
Ouais, je suis végétarien, c'est assez bizarre que je dise non, mais non. Il faut arrêter juste la surconsommation de viande. C'est ça le problème. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande pour donner l'exemple quand j'ai dit tout à l'heure. C'est pour expliquer quand on me demande pourquoi je suis végétarien, je leur explique. C'est par rapport à l'écologie, par rapport à tout ce que ça demande en énergie, en eau, tout ça. C'est pas possible
vous
avec
pouvez
le modèle.
Un kilo de viande, c'est combien de flotte?
15 000 litres d'eau pour un kilo de viande. ça paraît quand même énorme. Parce qu'il faut produire son aliment. Après, la vache, elle va aussi boire de l'eau. Et il y a toute après aussi la partie à l'abattage où et tout ce cheminement demande 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai arrêté. Ça fait 3 ans maintenant que je mange de viande. Mais mon rêve, honnêtement, c'est de remanger de la viande parce que j'adore ça. J'en mangeais midi et soir. Mais c'était ça le problème, en fait. C'est que j'en mangeais midi et soir. Et on peut plus avant, à l'époque des boomers, quand les boomers étaient jeunes, ils mangeaient de la viande que le week-end. Et ils avaient pas de viande la semaine. Et j'ai demandé dans mon entourage pour être sûr de ce que je dis. Et quand il y avait de la viande la semaine, c'est parce que la bête avait été tuée et qu'il fallait manger le cœur, le foie pour pas que ce soit perdu. Mais sinon, on mangeait de la viande que le week-end. Et on n'avait pas de problème à ce niveau-là.
Mademoiselle, faut-il arrêter de bouffer de la viande pour sauver le climat?
Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Parce que je pense qu'il ne faut pas dire... faut arrêter la surconsommation, vraiment. Après, je pense qu'il faut aussi pas blâmer ceux... Moi, je suis pas végétarienne, mais je pense qu'il ne faut pas aussi blâmer ceux qui ne mangent pas et tout de suite dire non, bah ceux qui sont végétariens, c'est les gentils, vous êtes les méchants. Je pense que ça, c'est le but. Vraiment, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être ensemble. C'est vraiment une lutte collective. Et je pense que comme ça, dire ouh, c'est pas bien, c'est vraiment pas la bonne solution. Voilà.
Monsieur Aron, Madame Janin, peut-être. Enfin, faut pareil sur la question.
Disons que c'est pas dans l'exclusion qu'on va réussir à former un collectif et à faire avancer les idées. En ce qui concerne la viande, oui, éviter la surconsommation et tout ça. Mais effectivement, imposer cette idée aussi dans le débat public, ça permet. Enfin, je pense que oui, il y a vraiment un gros enjeu qui se joue sur tout ce qui est sensibilisation. Tout ce qui est imposer cette idée et cet impératif dans le débat public.
Charles.
Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai une réserve, c'est que j'ai l'impression que moi, depuis 2 ans, quand je dis que je suis végétarien, on me rétorque, oui, moi aussi, je fais attention, je mange moins, mais je mange mieux. Et donc, le nouveau terme à la mode, c'est flexitarien. Ce qui, effectivement, pour moi, c'est du bon sens et c'est ce qui devrait être le modèle. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi une manière, finalement, de faire business as usual et la consommation baisse un tout petit peu? Et finalement, en fait, tant qu'on restera dans ce discours-là, c'est comme, alors peut-être que c'est assez, c'est comme les poissons, en fait. Les poissons, quand on...
C'est pire avec les poissons.
Complètement, parce que les filets, en fait, vont tout ramasser, vont finalement, à terme, détruire les océans. Et la question, si c'est, est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande pour sauver le climat? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que véritablement on peut espérer ou on doit vouloir d'une dictature verte où on n'aurait pas le droit de manger de la viande? Non, évidemment que non. On reste en démocratie. Chacun doit être libre de consommer ce qu'il désire manger.
Donc, on sera d'accord. Il n'y a pas de loi qui va interdire. Si jamais votre génération arrive au pouvoir, moi vieux, je pourrais toujours bouffer de la viande.
Ouais.
Ok, merci, c'est cool, ça me rassure. Et par contre, non, vous disiez faire l'inclusif, mais qu'est-ce que vous pensez des actions qui ont été menées devant les boucheries par notamment certains militants d'Extinction Rebellion ou du Parti Animaliste? Vous cautionnez ce genre d'action, Monsieur Hérisson?
Ça dépend, mais par exemple, il y a une grande militante L214. J'ai pas son nom, mais on la voit souvent dans les plateaux télé et à s'énerver, mais vraiment à un point hallucinant.
C'est pour ça qu'on l'invite d'ailleurs.
Ouais, et ben moi je trouve ça triste parce que non, je suis pas d'accord avec la manière dont elle l'apporte parce que elle discrédite le mouvement des véganes, le mouvement des végétariens, et moi je trouve ça dommage d'avoir une personne comme ça qui, elle, est militante dans son véganisme et qui veut arrêter l'abattage des animaux. Ça se comprend, mais pour moi, il y a des manières de faire et sa manière n'est pas la meilleure, à mon avis.
Mademoiselle, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Hérisson? Ou vous condamnez ce genre d'action? Ou vous dites, ok, c'est normal, on doit aussi, pour le débat public, faire prendre conscience?
Alors, je ne suis pas forcément au courant des actions qui ont été menées.
Non, en fait, devant des boucheries, par exemple, il y a eu des gens qui empêchaient les gens d'aller acheter de la viande, ou ils ont tagué des vitrines de bouchers charcutiers. Vous soutenez ce genre d'action? Parce qu'on parlait de radicalité tout à l'heure, est-ce que c'est peut-être pas finalement un moyen?
Bah, moi, je pense que la radicalité, c'est vraiment pas une manière d'avancer. Parce que empêcher les gens de... Bah, en fait... Comme on disait tout à l'heure, l'important c'est de communiquer tout ça. Mais je pense que c'est important de rester dans le non-violent et le respect des autres. Et je dis ça sans connaissance vraiment de ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut pas être radical en fait, et pas dire comme tout à l'heure les
radical,
gentils les méchants. Voilà, les gentils les méchants, je trouve ça vraiment très généralisant.
C'est ce que tu viens de dire, faut pas culpabiliser surtout ceux qui élèvent. En fait, par contre, on peut pas nier qu'effectivement dans le propos, dans le fond, elle a tout à fait raison. Si les abattoirs avaient des fenêtres, personne mangerait de la viande.
Donc
on peut aussi s'interroger, pas forcément.
Ah ouais, dans les abattoirs, il y a pas de fenêtres.
Et ouais, c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, c'est très très rare que les gens qui y travaillent y restent plus d'un mois. J'ai des copains qui ont essayé d'y travailler en intérim, ça a duré deux semaines, c'est impossible. Donc en fait, il faut au moins s'interroger et se dire, ok, si on veut vraiment manger mieux, il faut d'abord qu'on les abatte mieux.
À la ferme, par exemple.
Mais alors, justement, il y a un mouvement qui avait été monté, alors je sais plus le nom, mais autour de Zuckerberg, en fait, il prenait le fondateur de Facebook, il prenait le fait de bouffer que sa propre viande qu'on a tuée soi-même. Vous seriez plutôt sur cette ligne? Enfin, on tue que la viande qu'on a... Enfin non, on mange que la viande qu'on a tuée soi-même?
Bah ouais, si on est capable de la manger, il faut qu'on soit capable
Donc
de la tuer.
Donc vous êtes
pro-chasse? Moi, philosophiquement, mais j'ai une position qui est bien personnelle. Personnellement, je considère que si le sommet de la chaîne alimentaire est occupé par l'homme et que l'homme n'est pas obligé de manger de la viande pour survivre, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et que peut-être qu'on est peut-être voué à tous être végétarien à terme. Et ce serait mon souhait.
Bon courage, en tout cas, j'espère que ce sera un des combats de votre génération. Monsieur Hérisson, une intervention, allez-y.
Sur,
vous allez y intervenir, excusez-moi, allez-y.
Non, pas spécialement.
D'accord. Bah écoutez, un dernier mot peut-être sur ce sujet-là, ou sur l'agriculture éventuellement, est-ce qu'on doit... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'agriculture.
Oui, on peut...
Et monsieur Hérisson, est-ce que la culture extensive de viande, finalement, c'est ça le problème,
hein? Ouais, moi, enfin, pour travailler dans le domaine agricole, les élevages en France sont pas très... sont pas extensifs comme on peut voir aux États-Unis, mais... Si par exemple on diminue les surfaces d'élevage pour agrandir les surfaces de maraîchage. Après, je suis maraîcher, donc c'est pas très objectif, mais si on développe ce système-là, on va pouvoir faire plus de circuits courts, on va pouvoir recréer la ceinture verte autour des villes avec les maraîchers qui vont fournir en fruits et légumes ceux qui habitent dans les villes.
Vous auriez dû conseiller monsieur Le Foll, spécialiste de l'agroécologie.
Ben, je l'attends.
on va passer au sujet suivant et qui nous permettra de terminer l'émission sur un long quart d'heure. Alors, comme la semaine dernière, avec mes invités, même s'ils étaient un peu moins jeunes que vous, vous êtes présidente ou président. Quelle proposition pour une transition écologique à la hauteur de vos enjeux générationnels? Allez-y, faites-vous plaisir, c'est le temps des propositions. Le premier, Maël?
Eh ben, j'aurais refusé la loi climat qui a été...
La loi climat et résilience qui vient d'être adoptée il n'y a pas longtemps.
Ouais. Je l'aurais refusé parce
Pourquoi
que... Parce que pour moi, elle n'est pas assez drastique. C'est des propositions qui sont là pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 2050. Enfin, non, on n'a pas le temps d'aller jusqu'en 2050. Enfin, là, les décisions, elles sont à prendre maintenant et les actions, elles sont à prendre maintenant. Donc, j'aurais commencé par refuser cette loi-là pour en proposer une nouvelle avec des enjeux plus concrets et tout de suite.
Mademoiselle ?
Moi, je pense que ce qui est très important, c'est financer la recherche, notamment en énergie, en fait. Parce que je trouve que c'est vraiment un point très important et qui...
Alors, quel type d'énergie, ça serait important à préciser ? Le nucléaire, notamment ?
Moi, je m'y connais pas beaucoup. Après, je vais pas forcément... parce que, bon, je suis pas pro-nucléaire, mais je suis pas... Enfin, en fait, le nucléaire, c'est 64% de l'électricité française. Et donc moi, je suis pas pour le nucléaire, mais je trouve que, justement, ce qui est important, c'est de financer la recherche pour pouvoir trouver des énergies plus respectueuses de l'environnement. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment un point très, très important, c'est vraiment financer la recherche pour qu'il y ait des solutions, des alternatives à ces énergies-là.
Monsieur Aron,
en fait, moi, par rapport à ça, c'est un peu la critique que je fais, par exemple, aux annonces d'Emmanuel Macron sur les nouveaux EPR. Pour moi, ça, c'est une transition énergétique sur PowerPoint. Pour l'instant, on en est là. Et moi, je me dis, est-ce qu'on vraiment, on est en train de miser notre avenir énergétique sur ça? Est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? On sait que c'est la sobriété, c'est l'efficacité. Alors oui, évidemment qu'il faut, il faut évidemment progresser justement dans l'efficacité. Il faut investir sur la recherche et développement Mais c'est tout de suite aussi qu'il faut commencer à réduire notre consommation. Et ça, il y a des leviers qui sont assez simples à mettre en place. Et qui
alors justement,
même
qu'est-ce qu'on fait pour arriver à la sobriété énergétique?
Je voulais pas en arriver là parce que je dirais que ça fait consensus même du côté de toute obédience. La rénovation thermique des bâtiments, je pense que ça, c'est quelque chose de très simple. Parce qu'on parle d'électricité, mais il faut aussi parler d'énergie primaire et tout simplement de...
C'est quoi l'énergie primaire?
L'énergie primaire, c'est l'énergie en fait dont on a besoin pour chauffer, qu'on met dans le carburant. Typiquement, moi... Ça vraiment à titre personnel, parce que j'ai mon papa qui est retraité de la SNCF. Je me dis, mais quel gâchis. Il y a des locomotives partout chez moi. Et je me dis, on avait des infrastructures exceptionnelles en France d'un point de vue ferroviaire pour transporter des humains, pour transporter des marchandises et pour créer du lien entre les villes,
les
gens, les territoires. On sait qu'on va devoir déconcentrer les villes, que c'est pas un modèle qui est viable. On va devoir justement, tu parlais de périphérie, de couronne verte, etc. On va devoir justement aller occuper d'autres espaces, d'autres territoires. Et je pense que le train, c'est le meilleur outil pour ça. Et on sait que c'est le transport le plus bas carbone qu'on connaît, en tout cas sur des longues distances.
Alors, on parlait des boomers tout à l'heure. Il faut quand même pas oublier qu'il y avait des tram-trains sur toute la Sarthe il y a une soixantaine d'années. Donc, on peut y revenir. Monsieur Hérisson, une intervention sur l'agriculture, l'énergie, les mobilités.
Ouais, c'était par rapport à l'énergie. Pour revenir à ce qu'on a dit par rapport au nucléaire, moi, je pense que si on supprime le budget dédié au nucléaire, si les centrales nucléaires vont devoir forcément s'arrêter, et ça prend quelques années avant de pouvoir arrêter une centrale nucléaire, si on stoppe ce budget-là, et qu'on se sert de ce budget-là pour s'en servir dans les énergies renouvelables, eh ben, je pense que c'est à travailler.
Mais on investit, alors désolé, je me fais encore l'avocat du diable, hein, en mode Sky. On investit énormément dans les énergies renouvelables, et on voit bien qu'à un moment, ça bloque. Enfin, regardez l'éolien, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une émission avec des invités sur la transition écologique. Aujourd'hui, personne ne veut d'éolienne chez soi. Chez l'autre, il n'y a pas de problème, mais chez soi. Alors, donc, du coup, comment on arrive à convaincre les gens de faire de l'énergie renouvelable chez eux? Une réponse peut-être un peu trop technique, la question.
Subvention de l'aide?
Ouais.
Ouais, et puis je pense que en fait les éoliennes, c'est rigolo aussi d'en parler médiatiquement parce que ça se voit. Mais moi je pense à nos voisins européens, je pense au Portugal, il y a des barrages hydrauliques qui fonctionnent très bien. Il y a d'autres énergies renouvelables, il y a la géothermie par exemple qui est très exploitée dans les pays asiatiques, je pense à l'Indonésie. Il y a d'autres énergies renouvelables que le solaire et l'éolien. Et par rapport aux renouvelables, faut pas non plus oublier que ce sont des technologies qui sont assez neuves, qui sont assez modernes, elles ont encore un potentiel. Mais par contre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il va falloir se serrer la ceinture à un moment donné, quoi.
Pensez vraiment? Alors, on va pas refaire l'émission Thinkerview, on parle tout le temps le calorie qui résonne que comme ça. Mais vous pensez vraiment que la première des mesures à prendre, c'est de dire aux gens chauffez-vous moins? Enfin, par exemple, on a l'exemple de Jadot qui a dit arrêtez d'utiliser vos machines à laver entre 18h et 20h. Ça va nous permettre de sauver la démocratie en Ukraine. Vous êtes d'accord avec ce genre de constat? Faut que les gens utilisent moins d'énergie. Vous pensez que c'est faisable à faire rentrer dans la tête des gens? Rappelez-vous les gilets jaunes, ils manifestent parce qu'on augmente, tiens d'ailleurs justement, est-ce qu'on doit augmenter la fiscalité sur les énergies pour justement permettre la transition énergétique?
Et après je vous laisse parler parce que on accaparait un peu la parole, mais en fait moi je suivrai un peu ce que dit le GIEC. Et notamment, alors le dernier rapport parle justement de justice sociale. Donc par exemple, on peut
fin
pas...
Fin du mois, fin du monde, effectivement.
Donc on peut pas opposer, effectivement, et surtout on doit accompagner ceux qui peuvent pas. Donc effectivement, une taxe carbone sur l'essence sans mesure sociale derrière, c'est une tragédie. Et justement, comme je suis bénévole à l'association L'Esprit de Barbara, je comprends tout à fait la réalité que c'est impossible. Déjà, il y a énormément de personnes qui se sauvent déjà pas, qui vivent dans des passoires thermiques. J'en ai un juste derrière moi, par exemple, que vous voyez pas, mais qui vit dans une passoire thermique où la fenêtre ferme même pas et il fait très froid. Donc évidemment qu'on va pas demander à ces gens-là de se baisser leur chauffage, ça serait indigne.
Mademoiselle, est-ce que sur la question, alors c'est peut-être un peu technique, mais est-ce que vous pensez que la transition énergétique doit être financée sur l'ensemble des énergies carbone, que ça soit au détriment des gens qui sont en difficulté sociale ou pas?
Je pense que par rapport aux personnes qui sont justement en difficulté sociale, c'est vraiment on va pas aller reprocher à des gens qui ont déjà du mal à boucler le mois, justement, fin du monde. On va pas aller leur poser des impératifs alors que déjà ils sont dans une difficulté quand même assez prégnante. Et pour revenir sur les actions à mettre en place en tant que gouvernement, je pense au plan de transformation de l'économie française.
Ah, monsieur Jancovici, je m'y attendais pas. Allez-y les shifters.
Du coup, Jean Covici, qui a sorti avec son collectif, il me semble que c'est un ouvrage rédigé de manière coopérative.
Mmh, tout à fait.
Le plan de transformation de l'économie française, PTEF. Et ça donne des plans, enfin, justement, des idées, pas que des idées.
Vous avez quelques propositions, justement, de ce plan à nous évoquer? Deux, trois idées hein, principales. Hein. Qu'est-ce qui a été dit dans ce plan de transformation?
Du coup, c'est fait en fonction des secteurs, d'activité.
Non, mais des propositions concrètes, mademoiselle Jeannin. Désolée, là, je vous prends un peu au pilori.
Oui, je sais que pour tout ce qui est réduction des émissions, je crois qu'il compte à 20% sur la sobriété.
D'accord, donc encore une fois, vous revenez sur la sobriété. Mademoiselle Casals, peut-être, vous êtes aussi shifteuse, membre du mouvement de Jean Covici? Ou pas du tout? Parce qu'il a fait, faut quand même le saluer. Enfin, moi, c'est pas mon obédience, comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, désolé, je prends un peu la parole. Mais c'est un vrai travail de politique, pour le coup. Et donc, est-ce que, en termes de propositions, justement, vous, en tant que jeune, vous n'avez pas envie de vous engager en politique pour essayer de faire changer ces boomers générationnels?
Ah bah bien sûr que si.
Alors pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous êtes resté dans vos mouvements associatifs? Et désolé, je vous provoque exprès.
Et parce qu'il faudrait créer de nouveaux partis, peut-être.
Mais il y en a des partis qui se créent tous les 6 mois.
Les partis politiques...
Ceux qui existent actuellement ne vous suffisent pas?
Non.
D'accord, donc si je vous dis ELV, non.
Non.
D'accord. Vous êtes tous sur la même ligne? Pas obligé de répondre. Hein. Non, d'accord. No pronunciato.
Ouais,
Benjamin Aron.
J'aime bien justement le... Enfin, j'aime pas les règles de la démocratie actuelle. Je pense que c'est une parodie de démocratie. J'aime bien la position de Bégaudeau là-dessus. Je pense qu'il n'y a rien de plus dépolitisant que le vote. Et pour autant, je pense quand même aller voter, évidemment, parce qu'il faut agir tout azimut. C'est un levier, on va pas se cacher, en fonction de qui dirige notre pays. C'est un levier, donc il faut tous les agiter en même temps et voir ce que ça donne, voir lequel est le plus efficace. Mais par contre, moi, j'ai peur effectivement que, en voulant changer le système, ce soit le système qui me change. Et ça, c'est encore pour paraphraser.
Alors moi, je reprendrai Rockin' Squat et je donnerai la parole à Madame Casal tout à l'heure, qui bouge la main.
Oh,
ah non,
oh,
pardon. Parce que sur le plateau, hein, vous savez, on a des petits signes pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. On a des petits signes pour se donner la parole. Il nous reste 3 minutes. J'ai pris l'habitude de faire 30 secondes, 1 minute maximum. Votre conclusion, Monsieur Hérisson, sur l'émission ou sur un truc qu'on n'a pas parlé. Allez-y.
Pour conclure, je pense que il faut prendre conscience, être acteur du mouvement, être acteur du combat qu'on va avoir à faire et qu'on a à faire. Il faut que les politiques comprennent la réalité de la vie, qu'ils sortent.
Toutes les générations, ils ont essayé.
Non, mais je pense concrètement que il faut que les politiques arrêtent de penser à quoi ressemble la vie, parce que c'est vraiment ça l'impression qui nous laisse paraître. Moi, j'ai pas l'impression que quelqu'un comme Emmanuel Macron connaît le quotidien de la classe populaire. Pour moi, non. Enfin, et il faut d'abord que
c'est
les gens.
C'est votre avis.
Il faut d'abord que les gens soient heureux, qu'ils se sentent bien, et après, l'écologie ira tout seul avec ça.
Monsieur Aron, conclusion.
Je dirais tout simplement, ça va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un troisième rapport du GIEC qui va sortir dans les semaines à venir, qui propose tout simplement, c'est une partie solution. Donc je me dis, c'est tout cuit dans le bec. Moi, je suis président de la République le 24 avril. Bah, je regarde.
J'applique le GIEC totalement.
En tout cas, je mets les moyens pour que ça fonctionne et pour qu'effectivement on suive leurs recommandations. C'est eux qui savent.
Mademoiselle Casal, c'est une conclusion, 30 secondes, 1 minute.
Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec le rapport du GIEC. D'ailleurs, la fresque du climat, c'est un atelier ludique qu'on peut faire venir dans les lycées et collèges. Donc c'est en fait une espèce d'affiche où un animateur...
C'est organisé par Benoît Planchot qui vient d'ailleurs, je tiens à l'affirmer, vient dans mon lycée, au lycée Sud, pour faire justement la fresque du climat. Donc je l'attends avec beaucoup d'impatience. Allez-y, mademoiselle.
Voilà, on aimerait bien mettre ça en place aussi dans notre lycée et donc on ferait aussi appel à Benoît Planchot. Et donc c'est en fait une fresque qui explique les conséquences et les acteurs du changement climatique et c'est vraiment très intéressant pour l'avoir faite. Et juste petite chose, donc le mouvement Youth for Climate du Mans est ouvert. Et donc ça veut dire s'il y a des jeunes qui sont intéressés à nous rejoindre.
Vous avez une page Facebook, un Insta, un
oui,
Snap,
y a
un TikTok,
Instagram, je crois que Facebook aussi.
Ouais, c'est pour les vieux Facebook, on sait. Mais
Enfin voilà, donc s'il y a des lycéens intéressés, sachez que c'est possible de voir sur Instagram et d'envoyer un message, voilà.
Eh ben merci pour cette information, Mademoiselle Gernin, une dernière conclusion.
Pour revenir rapidement sur Your Story Climate, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Et en conclusion, vraiment essayer d'être plus dans l'inclusif que dans l'idée de pointer du doigt certaines personnes, certains collectifs, certains groupes, dans l'idée de construire quelque chose ensemble, parce que dans l'exclusion, on n'y arrivera jamais.
Et c'est une excellente transition pour terminer mon émission, et je reprendrai Amélie, dont on salue encore l'engagement sur ces questions. Je crois que c'est la devise d'Alternativa, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je tiens à vous remercier sincèrement, c'était une très bonne émission.
Merci, enfin,
j'avais un peu d'appréhension. Donc c'est très cool. Je remercie monsieur Hérisson, monsieur Aran, Mademoiselle Casals, Mademoiselle Jana, qui se sont un petit peu invitées comme ça à l'arrache, mais c'était très cool, ça nous a permis aussi d'avoir des jeunes de Youth for Climate. Je remercie aussi LB à la technique, je veux aussi me remercier moi-même, hein, quitte à faire. Hein. Pour la fin de l'émission, on va se passer un petit morceau d'Orelsan. Alex m'excusera, c'est pas du rapricain. c'est l'odeur de l'essence, hein, quitte à ce que ça brûle, bah, un jour on sait jamais. On remercie Orelsan. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission sur la thématique de la jeunesse, parce qu'on a décidé de pas parler des politiques pendant la présidentielle, on a voulu donner la parole à la jeunesse. Je remercie Jean-Yves d'ailleurs de son accord et de son aide pour faire ces émissions. Et on se quitte après et on retrouve Alex pour l'émission La Carotte. Bonne soirée la famille, salut et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réac, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible, tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés
forêt de Mongol, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.